printemps du livre Grenoble 2024. Les rencontres littéraires radiophoniques de la librairie des étudiants. Eh bien bonjour, bonjour à toutes et à tous, amis lecteurs et lectrices passionnés de littérature. Pour celles et ceux qui habitent Grenoble, vous avez pu assister aux événements du printemps du livre de l'édition 2024. L'édition qui nous a été proposée cette année sur plusieurs jours nous a proposé de multiples rencontres littéraires, des animations, des débats et des échanges pour pouvoir mettre en avant la culture et la littérature. Pour la librairie des étudiants, j'ai eu le plaisir de pouvoir rencontrer des auteurs qui étaient présents ce week-end à Grenoble. Au programme des prochaines chroniques, je vous propose de découvrir chaque jour un de ces entretiens. Je souhaite particulièrement remercier Maëlle Sagne-Descamps et Karine Dinck à Tomasini de nous avoir permis d'interviewer ces écrivains présents au printemps du livre 2024. Merci également aux équipes de Radio Campus Grenoble, à commencer par Clarly, pour avoir organisé en synergie avec les équipes de la mairie de Grenoble ces rencontres. Pour les prochains jours, je vous propose quelques 8 entretiens avec des auteurs et des autrices qui composent les actualités littéraires depuis septembre 2023. Aujourd'hui, nous commençons par le dernier livre d'Arthur Dreyfus, La Troisième Main. C'est le titre de son dernier roman qui est paru aux éditions POL en août 2023. Ce livre a été un des textes les plus plébiscités lors de la rentrée littéraire, récompensé par de nombreux prix, comme le prix Castel, le prix Transfuge ou encore le prix Wepler 2023. Nous sommes au tout début du XXe siècle. Après une enfance un peu marginale dans la campagne, la vie de Paul Marchand va être secouée par la mort de son père, emportée par la Première Guerre mondiale, qui secoue sa région, toute proche des frontières germaniques. À l'école, le professeur Buissonnier va être remplacé par un curé mobilisé à la guerre. Pour aider sa mère à subvenir aux besoins du foyer, il va enchaîner les petits travaux, de ferme en ferme, pour pouvoir gagner un peu sa vie. Un jour, alors qu'il est chargé de livrer du lait dans une ferme voisine, Paul est rattrapé par la guerre, sur cette route de campagne. À son réveil, c'est dans une chambre médicale tenue par un docteur fou que le jeune homme se réveille, avec un nouveau bras qui est greffé au milieu de son ventre. Voici maintenant l'entretien réalisé avec Arthur Dreyfus à la salle noire des Barbarins, lors du printemps du livre de Grenoble. Bonjour Arthur Dreyfus.
Bonjour.
Votre roman s'ouvre avec cette histoire de Paul Marchand, jeune homme qui a tout juste une quinzaine d'années au début de la Première Guerre mondiale. Or, lorsque nous commençons à lire votre roman, nous sommes sur le seuil d'un roman fleuve. Votre narrateur et personnage principal va qualifier ce texte de journal testamentaire, nous offrant alors des entrées multiples dans votre texte. Quelle est la vôtre de clé d'entrée dans votre roman ?
J'aurais du mal, je sais pas. La clé d'entrée pour moi, pour les autres
Pour vous ?
Ben, je ne sais pas.
Est-ce que ça pourrait être par exemple un roman d'apprentissage ? Parce qu'on va voir Paul évoluer au fur et à mesure de votre roman, apprendre, faire des erreurs.
Oui.
Votre personnage est très lucide à propos de sa vie et de ce qui l'attend. On le voit d'ailleurs dès le début à la page 9, j'ai relevé ceci. Il dit « J'y compris que réserve et modération s'avéraient d'excellentes parades contre le tambour de rancune et de mesquinerie que l'on nomme société. Mmh. » C'est un mantra qu'il tentera peut-être de s'appliquer au fil de son histoire. Est-ce que l'on doit peut-être considérer aussi notre monde actuel avec ce mantra-là ?
Une des caractéristiques de mon personnage, Paul, c'est que c'est quelqu'un de pur et de simple, de doux. Et donc, il y a cet accident qui arrive et un scientifique fou, comme on dit, va lui greffer une troisième main pendant la Première Guerre mondiale. La main, en fait, d'un soldat allemand qui a été retrouvé sur un champ de bataille. Il va lui greffer au milieu du ventre et cette main va s'avérer vivante. C'était important pour moi de placer les choses dans un contraste, on pourrait dire... dans un antagonisme moral, puisque le personnage, lui, est gentil et il a de bonnes valeurs, c'est quelqu'un de droit, et la main qui est attachée à lui est vicieuse et perverse. Elle est beaucoup plus fourbe. Je pense, vous parliez de la clé tout à l'heure, je pense malgré tout qu'une des clés de ce roman, c'est la pulsion. C'est quand même un texte sur la pulsion. Et voilà, il fallait que le personnage soit beaucoup plus...
plus pur par rapport à ce qui allait lui arriver.
Oui. Et puis avec cette question centrale qui est est-ce que quand on est quelqu'un de bien, Est-ce que quand on est quelqu'un de pur, ou qu'on se perçoit comme pur, ça nous protège de basculer dans la part d'ombre, de basculer dans quelque chose de beaucoup plus violent. J'ai l'impression que l'humain est fait de choses qui sont très antagonistes. Et voilà, ça se retrouve dans le livre.
Donc on a parlé donc de cette fameuse main qui est greffée sur votre personnage, qui est donc due à ce fameux docteur complètement fou. Ça m'a fait penser aussi à deux autres textes littéraires, que ce soit L'homme qui rit de Victor Hugo, voire même Frankenstein de Mary Shelley. Votre personnage parle de la honte de ce corps détruit, difforme, qu'il lui faudra donc apprendre à connaître. Avec cette honte, est-ce que votre personnage pourrait compléter un triptyque avec justement ces deux autres personnages, Victor Hugo?
Je ne parlerai pas de triptyque, mais en tout cas, toute la littérature de fantastique de la fin du 19e est une référence pour moi. On pourrait aussi parler de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, de Stevenson. On pourrait parler d'Elephant Man, le film de David Lynch, qui n'est pas de la fin du 19e, mais qui est dans cet esprit-là. Bien sûr, on pourrait parler des nouvelles d'Edgar Poe, ou du portrait de Dorian Gray.
Aussi,
avec ce personnage qui vieillit dans son tableau, mais qui empêche son modèle de vieillir dans la vie. Vous parliez de la honte. Oui, je pense que même un mot que j'aime mieux que la honte, c'est la monstruosité. Le personnage s'interroge beaucoup. Il y a cette troisième main qui lui est greffée, et donc il y a une part de lui-même qu'il perçoit comme extérieure à lui-même. Cette troisième main, il a l'impression que c'est pas lui. D'ailleurs, c'est pas lui, puisqu'elle lui a été greffée et qu'elle appartenait à un soldat allemand. Et en même temps, elle est attachée à lui, il ne peut pas la retirer, et donc c'est un peu lui quand même. C'est une question qui traverse tout le roman. Suis-je un monstre? Suis-je un monstre et qu'est-ce qu'un monstre?
Alors, dans l'écriture de votre roman, il y a quelque chose qui est aussi assez marquant, frappant, c'est que tout au long des petits chapitres que vous nous donnez, il y a, dans votre écriture, des petits mots, stop, pause, qui vont donc ponctuer de manière... qui vont même faire penser à une écriture télégraphique d'un message. C'est quoi l'utilité de ces petits mots dans votre écriture?
C'est un procédé d'écriture que j'ai développé dans mon journal sexuel, qui était un livre de 2300 pages. Donc j'ai l'impression qu'il est tellement long que j'avais besoin d'introduire des scansions, des moments où je forçais le texte à s'arrêter pour repartir dans une autre image. Mais en ce qui concerne la troisième main, je crois que j'ai beaucoup écrit avec des images dans la tête. Souvent, j'essayais d'imaginer sous quel angle on allait percevoir la troisième main du personnage, si elle était visible ou invisible, etc. Et je crois que le stop, le pause, sont presque des mots de cinéma, des mots qui figent la phrase dans une réalité visuelle.
Donc ça ne voudrait pas dire que ce serait un moment pour vous, en tant qu'écrivain, de vous dire stop, il faut que je donne cet élément-là avant de l'oublier.
Si, un peu, peut-être. Il y a aussi autre chose, c'est que les romans de la fin du 19e dont on parlait, ce sont les romans baroques, tout ça, sont des romans longs, remplis de... Enfin, mon livre n'est pas court, mais je veux dire, la tonalité de ces romans fantastiques, c'est beaucoup de descriptions. C'est beaucoup de lyrisme, c'est toute une sorte de, je sais pas, de torrent littéraire de la bizarrerie. Et c'est ce que je ne voulais pas faire. Justement, je voulais pas que mon livre ressemble à un pastiche de Frankenstein ou du portrait de Dorian Gray. J'ai essayé d'être très matter of fact, comme disent les Anglais, très concret, et que chaque scène ressemble à une petite histoire très compacte. Les chapitres sont très courts et il se passe presque une chose à chaque chapitre.
Est-ce que cette fameuse main, cette entité à part entière, pourrait être une métaphore de la violence inconsciente de l'humain?
Comme je vous disais, j'ai l'impression que cette fameuse main, c'est plutôt une allégorie de la pulsion. Dans Dr. Jekyll et Mr. Hyde, il y a ce personnage, donc Dr. Jekyll, qui invente une potion pour exprimer toute sa mauvaise part dans un deuxième personnage qui est Mr. Hyde, et le Dr. Jekyll va être remarquable, applaudi par toute la société. Et en fait, ça finit par le détruire, parce qu'on se rend compte que quand on sépare complètement le bien du mal, on vit dans une fiction, et en fait, rien n'est tenable. J'ai l'impression que la vie humaine, c'est de savoir mélanger le bien et le mal qui est en nous, d'utiliser je sais pas ce qu'on peut appeler le mal, mais de le transformer, par exemple, en créant des œuvres d'art, de le sublimer, comme dirait un psychanalyste, mais pas de penser qu'il est hors de nous. La troisième main, elle est accrochée au personnage, et je pense qu'on a tous une troisième main, quelque chose qui nous pèse, qui nous fait nous sentir monstrueux à certains moments, et dont on se demande si ça fait bien partie de nous ou si on en est responsable.
Votre personnage va aussi découvrir la littérature.
Oui?
À vos yeux, la littérature donne-t-elle des réponses à nos souffrances?
Non. Je ne sais pas définir la littérature au sens large. Mais en tout cas, dans littérature, j'entends. Alors, elle donne pas des réponses parce que réponse est un mot trop fermé. Je pense qu'elle permet pour les créateurs de sublimer leur souffrance, d'en faire quelque chose. Pour les lecteurs et les lectrices, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans littérature, j'entends toujours les trois mots littérature.
Votre personnage va aussi découvrir la littérature avec Rilke et Sade.
Oui?
Est-ce que ce sont deux entrées pour comprendre la psychologie de votre personnage?
Alors, Rilke, vous êtes sûr? Il y a.
Le poète.
Il y a. Oui, il y a Rilke, il y a Sade et il y a Lautréamont.
Oui.
Oui. Et votre question,
Est-ce que ce
c'était?
sont des entrées pour comprendre la psychologie de votre personnage?
Non, mais c'est une littérature sombre. Et lui-même s'intéresse à. Enfin, je sais pas s'il s'intéresse, mais sa vie est sombre. C'est quelque. Ce personnage, on le disait tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est pur, Paul Marchand, il s'appelle au début. Il a une enfance qui est normale, qui n'est pas extrêmement heureuse, mais qui n'est pas malheureuse non plus. Il grandit à Besançon au début du XXe siècle. Et puis il pourrait se dire que sa vie va être normale, va être simple. Et tout à coup, il y a cette explosion près des tranchées, un jour où il se promène pour livrer du lait. Il y a cette main qu'il transperce et sa vie qui est balayée tout à coup. En fait, il s'imaginait pas ça. Je pense que. Voilà. Moi j'ai un peu vécu ça dans ma vie. Je pensais que. Et peut-être c'est le cas de tous les enfants, mais je pensais que la vie serait simple. Et qu'elle serait facile, je ne sais pas, mais en tout cas fluide. Et puis tout à coup, on devient adolescent, on devient un jeune adulte, et c'est beaucoup plus violent que tout ce qu'on avait pu imaginer.
Au fil de ces rencontres, nous voyons aussi le personnage se perdre dans une vie de travail et aussi de débauche, notamment avec Élise. Il va se consumer peu à peu jusqu'à se rendre compte de ce qu'il devient et tout arrêter brutalement, jusqu'à même lui écrire: Vous êtes aujourd'hui ce passé que je dois quitter. Il qualifie sa vie avec Élise comme deux piliers essentiels. Est-ce que le fait de trop aimer, d'aimer pour deux, fait un jour un déclic de la toxicité d'une relation dans l'esprit de quelqu'un et donc de le pousser à partir?
De trop aimer, d'aimer pour deux, ça veut dire
Oui.
quoi?
C'est-à-dire qu'on aime beaucoup plus pour l'autre et que le deuxième n'est pas dans la même relation de sentiment que le premier.
Ce que je peux dire, c'est que bon, ce personnage, il a une troisième main. Cette troisième main, elle peut être cachée sous une chemise, sous un paletot. Elle est à la fois visible et invisible. Il peut essayer de l'attacher avec des ceintures autour de son corps pour ne pas qu'elle s'exprime. Et pour parler d'amour, il va y avoir trois cas de figure dans le livre. Il va y avoir une première femme qu'il rencontre qui va découvrir cette main le soir de la nuit de noces et qui va être totalement effrayée. Il va y avoir Élise dont vous parlez. Qui elle a la réaction contraire, elle tombe littéralement amoureuse de cette troisième main et même donc de cette part, la partie monstrueuse de son homme, c'est ça qu'elle aime. Et puis il y a un troisième cas de figure qui est Jade à la fin, la troisième femme qu'il rencontre, qui elle l'aime lui. Et cette main ne lui accorde pas d'importance particulière. Elle est là, mais c'est pas le centre de son corps. Et pour moi, il y a une allégorie ici de la relation amoureuse. Que faire de la monstruosité de l'autre? Parce qu'on a tous une sorte de part monstrueuse, tous et toutes, mais on peut choisir de ne pas se focaliser sur cette part-là et d'aller au-delà, de voir l'être derrière le monstre.
Merci Arthur Dreyfus.
Merci.
La troisième main, c'est le titre de votre dernier livre qui est paru aux éditions POL et qui est toujours disponible en librairie depuis août 2023. Amis auditeurs et auditrices, nous nous retrouvons demain pour le deuxième entretien du Printemps du Livre, réalisé avec Pierrick Bay. La capsule auditive de notre entretien du jour avec Arthur Dreyfus est bien sûr à retrouver en baladodiffusion sur le site internet de Radio Campus Grenoble 90.8. À demain!